Bonsoir à tous. Vous vous souvenez de quoi il a été question dimanche matin? Qu'est-ce que j'ai partagé avec vous? Il était parlé d'une course, voilà. Et j'ai dit que ce n'était pas un sprint, mais un marathon. Et un frère à la sortie m'a dit, oh, il aurait fallu que vous disiez autre chose. Alors je vais rectifier. Le marathon, on ne peut pas le faire seul. Et c'est vrai que le premier moment, l'occasion qui a fait qu'on a appelé ça un marathon, c'est qu'un homme a été envoyé pour annoncer une nouvelle à un pays, et il a marché couru des kilomètres, et à l'arrivée, il a fait ça tout seul, il est mort. Ça, c'est la vraie histoire du marathon. Donc on a besoin d'aide, et il m'a dit, faut que vous disiez aux frères et sœurs que dans un marathon, dans la vie chrétienne, puisqu'on comparait la vie chrétienne à une course et un marathon, on a besoin les uns des autres. Et c'est vrai. Et moi, ce soir, j'ai besoin de vous, parce que j'aurais beau dire toutes les paroles que je veux, Jésus serait à ma place en train de prêcher lui-même ou de parler lui-même, si nos cœurs, si vos cœurs sont pas ouverts, le mien non plus, on peut rien recevoir. Alors on a tous besoin les uns des autres. D'accord? Merci Seigneur. Une première parole, dans Nombre 23, 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Amen. On s'arrête là. J'aimerais parler ce soir, et je vous donnerai peut-être un titre pour vous aider, c'est « Quand Dieu parle ». Quand Dieu parle. Amen. On courbe encore nos fronts quelques instants. Seigneur, je te remercie encore pour cette occasion que tu donnes ce soir d'entendre ta parole. Tu me conduis, tu m'aides, tu me secours par ton esprit. Moi, tu nous secours tous aussi pour entendre vraiment ton conseil, ta parole ce soir. Aide-nous à ouvrir nos cœurs qui parfois sont verrouillés avec des verrous. Mais j'ai appris, Seigneur, que tu fais éclater les verrous, que tu fais sauter les cèpes aux pieds et aux poignets, que tu délivres des gens qui sont emprisonnés. Alors, mon Dieu, si tu peux faire ça, tu peux ouvrir aussi nos cœurs. Et j'ai confiance en toi pour croire que ce soir, ton œuvre va s'accomplir. Parce que moi, même si je ne peux rien faire de moi-même, avec toi, je suis capable et je suis fort, Seigneur. Avec toi, il se passe des miracles. Et lorsque tu es avec nous, ceux qui sont contre nous sont plus fragiles et plus faibles. Alors merci, Seigneur, d'accomplir ton œuvre librement ce soir, par ton esprit et au nom de Jésus. Amen. Amen. Première chose que j'aurais voulu noter ce soir, c'est que quand Dieu parle, il dit la vérité. Quand Dieu parle, c'est la vérité. Ce soir, on va voir des choses très très simples, mais j'aimerais qu'on s'en souvienne. Et la première de ces choses, c'est que quand Dieu parle, c'est la vérité. Le texte qu'on a lu en introduction, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il y a deux questions auxquelles ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent Jésus et la parole peuvent répondre facilement. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Moi, je le crois. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je le crois aussi qu'il exécute tout ce qu'il dit. Quand Dieu parle, il dit la vérité. Dans Jean, au chapitre 17 et au verset encore 17, il est dit ceci, c'est Jésus qui parle à son Père, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » La parole de Dieu, ce sera toujours la vérité. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que au moins si je suis sûr et si je sais que ce que Dieu dit, que ce que sa parole dit, c'est vrai, je vais pouvoir m'appuyer sur elle. Les gens dans ce monde n'ont pas d'appui. Leur vie dépend des circonstances, des temps, de toutes sortes de choses, alors que celui qui croit que la parole est la vérité, il a un fondement sûr et inébranlable. La tempête, les difficultés dans la vie peuvent venir, mais lui, il reste debout. La première chose qu'on doit savoir, c'est que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Et on va le voir encore, c'est même une vérité, quand il dit quelque chose, c'est une vérité, même si c'était une vérité cachée, lui, il arrive à la savoir. Et il dit des choses, et même si c'était caché, c'est vrai. On va le lire dans Jean 4. Jean 4, 16 à 18. Jésus est devant une femme Il lui parle, il a soif, alors il demande, est-ce que tu peux puiser de l'eau? Est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Cette femme est toute étonnée, elle pose la question, mais toi qui es juif, tu demandes à une samaritaine de donner de l'eau? Tu ne sais pas qu'il y a un désaccord entre nous, un désaccord religieux? Et Jésus lui répond que si elle savait à qui elle disait ça, elle lui demanderait elle-même à lui à boire. Et les choses vont, cette femme lui demande qui il est, etc. Elle se pose la question et Jésus lui dit, va, au verset 16, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et là, Jésus va dévoiler quelque chose. Il va parler et il va dire quelque chose. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, en cela, tu as dit vrai. Et cette femme lui dit, oulala, je vois que tu es prophète. Mais en fait, ce n'était pas un prophète, c'était Dieu lui-même. J'ai bien dit quand Dieu parle, et là je viens de relever les paroles de Jésus, mais comme on l'a vu il y a peu de temps, quand M. Galifo a porté la parole, il prenait ses textes dans Ésaïe, où il était parlé, Jésus dit que son bras lui vient en secours. Son bras lui vient en secours et juste après, en parlant de Jésus, il est dit « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» En parlant de Jésus. Un autre moment, le psalmiste, je crois que c'est David qui parle, ben oui, au psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger. Dieu est mon berger. » Et Jésus lui-même, dans Jean, au chapitre 10 ou 11, il dit « Je suis le bon berger. » Donc l'Éternel, c'est Jésus. Un autre moment, et il y a plusieurs moments dans la parole, on voit que Jésus, ce n'est pas un simple homme, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est un homme dans lequel il y a Dieu qui est venu habiter. C'est une chair dans laquelle Dieu ne s'est plus à habiter. Donc c'est Dieu présent sur terre. Dieu présent sur terre. Et Jésus a dit ça à cette femme, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant... » C'est pas le tien. 6e homme, au moins, et c'est pas le sien. Il dévoile des vérités. Peut-être que quelqu'un est venu ce soir et se dit, Dieu, de toute manière, il me connaît pas. Il peut pas résoudre mon problème. Peut-être quelqu'un est venu dans ce lieu et il a dit, voilà, je viens parce qu'on me l'a demandé pour faire plaisir ou parce qu'on a insisté. Mais j'aimerais vous dire à chacun, Dieu connaît tout. Il connaît la vérité, même la vérité cachée. Caché. Quand Dieu parle, quand Jésus parle, il dit la vérité. Et alors qu'il dit ces paroles à cette femme, ça s'est trouvé être vrai. Je pense que tous ceux qui connaissent Dieu peuvent dire à un moment dans leur vie, j'ai expérimenté que quand Dieu parle, il dit la vérité. Je me souviens de ce témoignage quand une personne était là et il disait, Seigneur, j'ai besoin d'aller dans telle église, à tel endroit. Mais je ne sais pas où ça se trouve. C'était un pasteur. Et c'est Monsieur Caddy, Christian Caddy. Un homme qui a été sorti vraiment de la drogue, de la violence, battu toute son enfance, etc. Il a fait de la prison, il a fait en tout 11 ans de prison. Et Dieu l'a tiré, Dieu l'a sauvé. Il allait, il sortait, il rentrait de prison. Il avait été catalogué psychologiquement d'incurable. Incurable. Quelqu'un qui toute sa vie serait un homme à problème. Non seulement qui aurait des problèmes, mais un homme qui créerait des problèmes, mis en prison, séjour, aller, retour, etc. Violent, vulgaire, il s'était même tatoué ni Dieu, ni maître. Un homme violent, battu, à 8 ans, pendu par une ceinture en haut et frappé par son père, pendant des jours, laissé comme ça avec du sang qui coulait. Et un jour, il était là, il marchait dans la campagne, il s'était échappé et il a été rencontré par des gens du voyage qui lui ont dit « Est-ce que tu connais Jésus ?»« Moi, je n'ai ni Dieu ni maître. » »« Oui, c'est ce que tu crois. Mais si tu en avais un, tu serais bien plus heureux si tu choisissais Jésus comme maître et Seigneur dans ta vie. » Et il a rejeté au début, puis ils ont été tellement gentils qu'il est venu à la réunion, une réunion comme celle-là, et il a été touché dans son cœur. Convaincu. Plus tard, il est devenu pasteur. Un jour, il était là, il conduisait, les policiers l'ont arrêté pour contrôle de papier et ils lui ont demandé ce qu'il faisait. Il a dit « Je suis pasteur, menteur. » Menteur, c'est pas possible. Ils ont regardé, il était tatoué partout, jusque-là. Tatoué. Vous n'êtes pas pasteur, vous mentez. Je vous assure, je suis pasteur. Regardez ce que vous avez marqué. Ni Dieu, ni maître. C'est pas vrai. Il a fallu qu'il fasse appel aux responsables du mouvement pour qu'ils confirment, oui, c'est un pasteur repenti. C'est un pasteur, oui. Et cet homme, il m'a frappé parce qu'à chaque fois, je lui disais, vous avez besoin de l'adresse, vous avez besoin de quelque chose? Il me dit, non. Moi, j'ai un GPS guidé par le Saint-Esprit, guidé par Dieu. Et il demandait au Seigneur, tu me conduis jusqu'à l'église. Plusieurs fois, étonné, un jour on le reçoit à Draguignan, vous voulez l'adresse? Il dit, non, le Seigneur va me conduire. Et il part, il prend sa voiture et on le voit arriver un peu à l'avance. Et on lui dit, alors vous avez demandé ou quoi? Non. À chaque fois c'est pareil, je fais confiance au Seigneur. Et le Seigneur me guide. Quand le Seigneur nous dit à droite, à gauche, lui il expérimentait, c'était un bon guide, c'était la vérité. C'était là qu'il fallait aller. Alors ça peut paraître bizarre, c'est ce qu'il vivait. Et je crois que quand Dieu dit ne touche pas ça, ne fais pas ça, ou quitte ça, c'est la vérité, c'est ce qu'il nous faut. Et c'est un bon conseil. Puissions-nous comprendre que quand Dieu dit quelque chose, il le dit parce que c'est la vérité. On va voir plus loin quelles conséquences a la vérité dans notre vie. Deuxième chose, la parole de Dieu, elle s'accomplit. Non seulement c'est vrai, mais quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Dans Zacharie 9:9, je vous le lis ou vous le prenez comme vous voulez. Zacharie chapitre 9 et verset 9, il est dit ceci. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. On prend dans Matthieu, chapitre 21. Versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient avec toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ?» Amen. Peut-être une question que vous vous posez, mais qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Il est quelqu'un qui vous parle, qui veut nous parler ce soir. Et quand on voit ces deux textes, on voit le rapport. Hein ? Il y a un moment où on annonce que Jésus viendra à Jérusalem sur un âne, le petit d'une ânesse. Il est précisé donc un ânon. Et dans Matthieu 21, versets 1 à 11, ce qui avait été dit est arrivé. Quand on lit le texte comme ça, on ne voit pas trop ce qu'il y a d'exceptionnel. Ça avait été dit, ça a été fait. Mais quand on regarde qu'il y a quand même 600 ans d'écart entre le moment où ça a été dit, écrit pour la première fois dans Zacharie, et le moment où ça s'est accompli, on se dit qu'il est Dieu. Il est fort, Dieu, quand même. Il est fort, hein, dans la précision. Non ? Ce qu'il dit, ça s'accomplit. 600 ans d'écart. Vous allez dire, mais non, la Bible, elle a été écrite en une fois. Non. La Bible a été écrite en plus de 1900 ans d'époque, par plus de 40 auteurs, dans des circonstances toutes différentes les unes des autres, des pays géographiquement, politiquement parlant différents, et tous concordent, annoncent des choses qui plus tard s'accomplissent, tout concorde à la lettre et au mot près. Aucun ne se contredit. C'est pour ça qu'on a l'assurance que ce qui est écrit, c'est vrai, c'est la vérité, et ce qui est dit, ça s'accomplit. Merci Seigneur. Moi-même, j'ai vécu ça, que quand Dieu dit une parole, elle s'accomplit. J'étais là, je brûlais, je ne veux pas revenir dans les détails, j'ai eu l'accident, j'étais dans les flammes, et j'ai eu cette parole dans mon cœur qui n'est pas venue de moi, qui n'est pas venue de mon intelligence, mais qui, je le crois, est venue de Dieu, qui m'a dit, si je l'ai permis, je vais t'aider. S'il a permis que je passe par cette difficulté, par cette épreuve du feu, eh bien, il me permettait de m'aider. Il allait m'aider jusqu'au bout. Et cette parole s'est accomplie. La preuve, je suis ici. Et il a fait beaucoup de choses pour moi. Merci Seigneur. Et il m'a aidé. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails et prendre trop de temps. Troisième chose que je voudrais dire, c'est que Jésus pardonne. Dieu, quand il parle, il est prêt à prononcer un pardon sur nos vies. Un pardon précieux. Un pardon qui a coûté cher. Pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, Jésus a dû monter à la croix et payer notre dette, payer notre erreur. Oui, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, il fallait que Jésus meure pour moi au calvaire. Comment je sais que Jésus pardonne ? Encore une fois, c'est parce qu'il l'a déjà fait pour d'autres, il l'a fait aussi pour moi. Mais on va le lire dans Marc, chapitre 2. Marc 2, versets 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Voilà, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés sont pardonnés. » Il va dire plus loin à des femmes, à toutes sortes de personnes, « Tes péchés sont pardonnés. » Et là, il précise, que c'est en voyant leur foi qu'il a pu dire « Tes péchés sont pardonnés ». Alors tout à l'heure, j'ai dit que Jésus était monté à la croix et qu'il a payé à notre place. À cause de nos péchés, il y avait une dette. Il fallait payer pour nos péchés. Comme quelqu'un, j'ai parlé de prison, comme quelqu'un qui est en prison, il est là parce qu'il a commis une erreur. Et on le met en prison pour son erreur. Tant d'années, tant de dettes, tant de factures, je ne sais pas comment on dit. Un prix qui est là à payer à cause d'une erreur, à cause d'une faute, à cause d'un péché, à cause d'un délit. Et le péché, il mérite et il demande réparation. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, Jésus est mort pour nous. Mais le moyen par lequel sa mort va avoir une valeur pour nous personnellement, c'est que nous ayons la foi. Le seul moyen d'être pardonné parce que Jésus est mort à notre place, c'est de croire dans ce pardon, de croire dans sa parole, de croire aussi en son sacrifice, en son cadeau qu'il nous a fait, en montant à la croix pour nous. Tout ça par amour. Jésus dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Si vous saviez ce qu'il se passe quand on demande pardon pour notre péché, une paix qui vient, une grâce, on se sent bien, un fardeau qui part. Qui a expérimenté ça? Bon, il y en a, je ne suis pas tout seul. Moi, quand je suis revenu au Seigneur, à un moment, j'étais parti, j'avais quitté la main du Seigneur parce que je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne, même un couple pastoral, et au bout d'un moment, j'ai dit stop. Qu'on me dise à chaque fois que Dieu existe, etc. C'est bon, ça me suffit, j'ai envie de voir ce que ça fait que de vivre sans Dieu. Et sans entendre parler de Dieu, parce que ça me dérangeait au bout d'un moment. Je voulais faire n'importe quoi. Je voulais pouvoir me saouler. Je l'ai fait. Je voulais pouvoir fumer. Je l'ai fait. Je voulais pouvoir vivre comme je le voulais, dire des gros mots, m'imposer, parce qu'on se moquait à chaque fois de moi, parce que j'étais poli. Vous savez, quand les choses normales, eh bien, sont appelées anormales dans ce monde. Hein. On couche pas avec n'importe qui, on est anormal. C'est pas vrai? On ne fréquente pas quelqu'un, on est anormal. C'est bizarre. Et alors, j'étais culpabilisé dans mon cœur, mais la mauvaise culpabilité, j'ai commencé à dire, mais maintenant, je vais vivre sans Dieu. Je suis parti. Et là, j'ai connu un grand désert. J'ai vu la différence quand on est avec Dieu et quand on est sans Dieu. Et j'ai dit, oulala, c'est bien mieux avec. Hein? C'est bien, bien mieux avec. Et quand j'ai voulu revenir, je suis revenu pour la première fois à une réunion au bout de 2 ans et demi où je m'étais abstenu. Je suis revenu et j'ai pleuré. Tout à nouveau, j'ai compris que j'étais un homme pécheur. Et j'ai commencé à pleurer. Pourtant, j'avais entendu mon père prêcher des milliers de fois. Mais ce jour-là, il redisait les mêmes choses, rien d'extraordinaire. Les mêmes choses. Il disait qu'on pouvait être pardonné, que Dieu nous aimait, qu'il était mort à la croix pour nos péchés, et que même si on est un grand pécheur, peu importe la taille de nos péchés, il était tout prêt à nous pardonner tout à nouveau. Et je sais pas, ça m'a touché tout à nouveau. Et du désert, je suis passé à l'oasis. De l'eau, comme si j'étais rafraîchi, désaltéré. J'avais un besoin de pardon. Je m'étais souillé pendant 2 ans et demi, mais gravement souillé. Et là, je me retrouvais avec la possibilité d'être lavé, propre. En été, on transpire, c'est pas vrai? Et on se sent tout pégueux, tout sale. Excusez-moi des mots, mais non, ça va, vous m'en voulez pas. On se sent sale. Sale et tout. Et quand on prend une bonne douche, on ressort tout frais. Même s'il fait encore chaud, on se sent frais. C'est pareil, lavé de nos péchés. Et le seul moyen d'être lavé de nos péchés, c'est de passer par le sang, d'avoir le sang de Jésus qui nous touche et qui nous lave de tout péché. Le seul moyen d'être lavé, c'est pas un bon savon X ou Y, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus lave de tout péché. C'est pas une prière qui me lave de tout péché. C'est pas des efforts qui vont me laver de tout péché, qui vont faire que je vais obtenir le pardon. Mais c'est vraiment Jésus qui est mort à la croix. Et je vais saisir ce pardon par la foi. C'est-à-dire la confiance en Dieu. La confiance en la parole de Dieu. Quand on retourne au Seigneur. Et la Bible compare ça à une nouvelle naissance. Quand on revient au Seigneur. Quand on s'abandonne à Dieu. Et qu'on dit Seigneur, pardonne-moi. Quand on demande au Seigneur de nous pardonner, c'est comme si on naissait de nouveau. Un jour, Stéphanie avait des petits lapins, des lapins nains. Et un jour, on attendait la naissance parce qu'on savait que la lapine était enceinte. Et Stéphanie, elle s'était inquiète pour sa petite lapine et elle a voulu que la cage soit à côté du lit, bien sûr. Et alors, elle l'a mis pendant les 3 derniers jours de la grossesse au pied du lit. Et puis, la petite, le jour de Pâques, c'est sérieux, les lapins de Pâques, on les appelait. Le jour de Pâques, le matin, on se réveille à 7-8 heures. Stéphanie, elle ouvre les yeux, elle dit « Oh, ils sont en train de naître. » Il y en avait déjà 2-3, je crois, qui étaient nés. Et le reste arrivait. Elle était en train d'accoucher. Et puis on regardait. Et puis au bout d'un moment, on a vu qu'il y en avait un, il ne respirait pas. 5 bébés, et il y en avait un qui ne respirait plus. Et puis on regarde, on dit « Mais mince, c'est tout. » On s'attendait à le voir bouger, on essaie de le toucher, il ne bouge pas. Et je me suis dit, on va faire comme dans ce petit dessin animé, les Dalmatiens, là. Je vais le prendre et je vais voir, je vais le secouer, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose. Et puis en fait, ce qui s'était passé, c'est que la poche avait recouvert la tête du bébé et il s'étouffait. Et je prends la peau comme ça qui reste, je l'enlève, je libère sa bouche, ses narines, et puis je prends le petit bébé lapin. Et je le secoue comme ça. Il ne se passe rien. Oh, je continue. Comme ça, 1 minute, 2 minutes. Puis au bout d'un moment, j'essaie d'aller un peu plus vite. Une image qui m'a... D'un coup, alors que je secouais un peu le lapin comme ça, d'un coup, il était là comme ça. Et d'un coup, il a fait... Comme ça. Et puis plus rien. Et puis petit à petit, et il a repris vie. Je me suis mis à pleurer. La vie, qui c'est qui l'a créée? C'est Dieu. Mais l'homme, il est fou de croire que le bébé, il se tisse par le hasard, il est tout seul, ça vient, tout se fait par hasard. C'est pas comme ça. C'est Dieu qui a créé la vie, même dans les animaux. Et la nature est là pour nous confondre, pour nous montrer. C'est plus gros que le nez devant la figure, comme on dit. C'est énorme ce que Dieu a fait, la nature, la création. Et ça nous prouve que Dieu existe, que Dieu est là. Et quand j'ai vu ce lapin qui d'un coup a respiré, oh, ça m'a, j'ai pleuré, il est revenu à la vie. Et j'imagine la joie de Dieu quand quelqu'un se demande pardon, crie pardon au Seigneur, pardon parce que j'ai péché, pardon Seigneur parce que j'ai pas réalisé, mais je me souillais et j'allais vers l'enfer. Et toi, tu veux pas que j'aille en enfer, alors t'as donné Jésus pour mourir à la croix pour moi. Quand quelqu'un est comme ça, c'est comme s'il respirait pour la première fois. Et Dieu est là, il lui dit « je te pardonne » et l'encourage et l'entoure de tous les soins possibles. Laissez-moi vous dire que le lapin, on l'a pas lâché des yeux pendant plusieurs jours et c'était notre petit ressuscité. Mais il était là. Et quand Dieu nous voit, c'est des images, mais quand Dieu nous voit chacun, quand il nous a vus, nous qui avons connu Jésus, respirer, vivre pour la première fois, passer de la mort comme espérance au salut, passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, la vie éternelle, cette qualité de vie que Dieu veut donner, qui n'est pas commun à tous les hommes, mais qui n'est que pour ceux qui connaissent et qui croient en Jésus et qui l'ont choisi comme maître. Quand c'est ça, mais quelle joie il doit y avoir dans le cœur de Dieu. Quelqu'un est sauvé, et c'est la joie dans le ciel. Il est dit, que pour une brebis qui se repent, une âme qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Il y a même plus de joie que pour 99 justes qui n'auraient pas besoin d'être sauvés. Oh oui, de la joie quand quelqu'un passe de la mort à la vie. Jésus pardonne, Dieu pardonne et il veut pardonner encore ce soir. Il veut le faire. Merci Jésus. Autre chose, quand Dieu parle, il peut guérir. Une parole, dis un mot, quelqu'un disait, et mon serviteur sera guéri. Une parole de la bouche de Dieu, une parole de la bouche de Jésus, et quelqu'un est guéri. Alléluia. On continue sur ce texte, Marc 2, et on continue au verset 6. Cet homme, il vient, il est paralytique. Pourquoi? Je pense pour être guéri. Et il croit en Jésus, il s'attend à quelque chose de la part de Jésus. Première chose, il reçoit le pardon de ses péchés. Je pense que là, ce texte nous donne l'ordre d'importance. La première chose dont on a besoin, c'est le salut de notre âme, l'assurance du salut, la certitude qu'on va au paradis. Mais il continue, il ne veut pas s'arrêter là. Dieu veut prendre soin de notre corps. Et il dit, il nous est dit qu'il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils n'avaient pas compris que Jésus, c'était Dieu. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil et c'est normal, il n'y a que Dieu qui puisse répondre vraiment à tous nos besoins. Amen. Oui, Dieu veut, peut guérir. Il veut le faire ou quoi? Oui, moi je le crois. Je l'ai vécu. Dieu m'a guéri d'une hépatite B. Dieu, j'avais mon poignet, il ne pouvait pas être greffé. Mon visage, mon front ne devait être greffé parce que la peau ne poussait plus. Elle était trop brûlée. Les chirurgiens ont dit, ça fait plus d'une semaine, ça n'a pas poussé, on va vous opérer. On va vous greffer comme on l'a fait là. Et puis mon père est venu, il m'a dit, Jérémy, est-ce que tu veux qu'on prie? Je dis, ben oui. On a prié, il m'a imposé les mains, comme c'est marqué dans la parole de Dieu. Et puis j'ai été guéri. Le lendemain, les chirurgiens n'ont pas eu à greffer. Ils ont dit, ben non, d'un coup ça s'est mis à pousser, on ne comprend pas. Merci Seigneur. On ne comprend pas. Ah, j'aime bien quand les hommes ne comprennent pas. Et quand les Bibles, par contre, elles nous expliquent. J'ai dit, ah, elle dit bien la vérité. Elle dit la vérité. Oui, il peut nous guérir physiquement, mais il peut nous guérir aussi dans notre cœur, d'anxiété, de soucis moraux. Dieu peut le faire. Même accident, je faisais des cauchemars chroniques, j'hurlais la nuit. Et pendant deux nuits, ça a été la même chose. Le troisième soir, j'ai supplié Dieu avec Stéphanie, on était fiancés, et dans le couloir de l'hôpital, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, je ne peux pas vivre qu'avec des cauchemars. Je ne peux pas supporter que ça devienne chronique, comme on me le disait. Je dis, Seigneur, pitié, enlève-moi les cauchemars. Et puis, j'ai dormi comme un bébé, et depuis, je dors, au point que des fois, le bébé crie, et je ne l'entends pas. Merci Seigneur, je n'ai plus jamais fait de cauchemars, et encore moins, tout court de cauchemars, mais même pas non plus de mon accident. Et des fois pourtant, ça m'arrive de m'endormir en y repensant, aux flammes, à tout ce qui s'est passé. Et je me dis, peut-être je fais un cauchemar. Et puis je me dis, non, Dieu m'a guéri, Dieu m'a enlevé mes cauchemars. Et puis c'est ce qu'il a fait, je n'ai pas de cauchemar. Et je n'en ai plus jamais refait. Merci Seigneur. J'ai connu des brûlés, tous m'ont dit la même chose. On revit l'accident et on fait des cauchemars. Mais moi, je suis béni. Merci Seigneur. Dieu m'a fait grâce surtout. Autre chose, il libère. Le Seigneur libère. Tout à l'heure, on a vu que Jésus est allé voir un ânon. A demandé à ce qu'on lui amène un ânon pour rentrer dans Jérusalem. Vous vous souvenez? Il a dit une parole. Si on vous demande ce que vous faites avec cet ânon, vous répondrez une seule chose. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Cet ânon avait des maîtres. Cet ânon était attaché. Parce que Jésus a dit une parole à ses serviteurs d'aller délier, d'aller prendre cet ânon. Il a été délivré. Mais il y avait encore une opposition derrière. Les maîtres, ils auraient pu dire, eh non, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous prenez cet animal? Il est à nous. Il nous a dit que ses maîtres ont quand même posé la question. Qu'est-ce que vous faites? Le Seigneur en a besoin. Une parole répétée de Jésus. Parfaitement répété. Rien changé. La parole de Jésus, ça suffit. Répété, paf. Et l'ânon est laissé seul. Alors là, c'est une bête. Mais je crois que Dieu, il peut le faire avec nous. Est-ce que Pierre n'a pas été délivré? Il était dans la prison. Il était lié. Il a été délivré. Dans d'autres endroits, dans Matthieu 8, par exemple, prenez-le avec moi. Et on va bientôt terminer. Matthieu 8, verset 28. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui, donc au-devant de Jésus. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Allez ». Ils sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Voilà, il y a cette histoire qui nous montre que quelqu'un était tourmenté, deux personnes étaient tourmentées par le démon, par des démons, des démoniaques qu'on appelle ça. Moi, je crois que sans parler forcément de possession, il y a l'ennemi numéro un des âmes des hommes qui est là et qui veut les tourmenter. Pourquoi tant de personnes se suicident? Pourquoi y a-t-il tant de tueurs, tant de violeurs, toutes sortes de choses? C'est pas Dieu qui le permet. C'est parce qu'il y a un ennemi. Et les gens, refusant de choisir Jésus ou Dieu comme leur maître, ce bon berger, ils sont soumis et ils sont vulnérables à l'action de l'ennemi, de Satan, du diable. Et Dieu ne peut rien faire pour eux, Dieu ne fait rien pour eux, parce qu'ils refusent de croire en Dieu. Tous ceux qui refusent de croire en Dieu sont soumis à l'action de leur ennemi. Et il ne veut pas leur faire du bien. Ce qu'il a fait avec les pourceaux, c'est ce qu'il essayait de faire et ce qu'il essaie encore de faire avec les gens aujourd'hui. Suicide-toi, supprime-toi, ta vie n'a aucune valeur. Arrête, ça vaut pas la peine. Abandonne, baisse les bras. Toutes sortes de pensées, des attaques. Mais Dieu, je crois qu'il peut délivrer. Et il veut délivrer. Et si on crie à lui, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu veut délivrer. Jésus est venu pour remporter une victoire au calvaire sur la croix, pour qu'on ait le moyen d'être délivré et d'être libéré. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit comme parole, parlant de l'ânon qui représente ma vie? On l'a vu dimanche matin. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en ai besoin. Dites, le Seigneur en a besoin. Et je crois que des fois, on n'est pas libéré de ce qui nous tourmente, ou de ce qui nous embête, ou de ce qui nous freine, parce qu'on ne réalise pas que Dieu ne veut pas nous sauver pour rien, mais il veut nous sauver parce qu'il a besoin de nous. Non pas qu'il peut pas faire sans nous, mais parce qu'il a choisi de nous utiliser pour être utile dans sa main. Dieu ne sauve pas les hommes pour les laisser oisifs à la vulnérabilité de tout vice et toute passion, mais au contraire, il veut leur donner un but dans leur vie. Partager la joie et le salut qu'ils ont trouvé. Préparer le chemin en témoignant, en faisant ce que Dieu leur demande, pour que Dieu puisse rentrer dans les cœurs et que les gens puissent ouvrir leur cœur, simplement. Dieu libère, mais est-ce qu'on comprend que s'il nous libère, c'est parce qu'il a besoin de nous? Il a besoin de nous. Sommes-nous disposés à faire la volonté de Dieu? Toute personne qui dit « moi je veux bien du salut, je veux bien de Jésus sauveur, mais pas Jésus Seigneur » et qui n'est pas disposé à faire sa volonté, il va rentrer par la porte, mais il n'arrivera pas au bout du chemin. Il va rentrer sur le commencement d'un chemin qui mène à la vie éternelle, mais comme il va s'arrêter, il ne va jamais y arriver. Il n'arrivera jamais au paradis parce qu'il refuse d'obéir à Dieu. Il rajoute à son péché. Est-ce qu'on réalise que Dieu veut nous libérer du pouvoir de Satan pour nous faire bénéficier de son pouvoir à une condition et pour quelque chose qui vaut la peine vraiment, c'est nous utiliser, qu'on soit utile entre ses mains. Quelqu'un ne sait pas quoi faire de ses journées, quelqu'un est là et ne sait pas trop quoi faire et s'ennuie, qu'il comprenne que Jésus veut l'utiliser. Jésus veut dire « moi je veux remplir tes journées de bonnes choses ». Ne t'inquiète pas pour le reste, je vais pourvoir. Fais-moi confiance. Lié par la cigarette, lié par l'alcool, lié par toutes sortes de choses, Dieu délivre, Jésus guérit. Amen. Sommes-nous candidats? Sommes-nous candidats? On ferme les yeux. Dieu parle. Jésus a parlé. Dieu parle, et moi, qu'est-ce que je fais de ces paroles? Dieu nous demande de faire trois choses. La première chose, c'est d'écouter, d'être à l'écoute, de chercher à entendre et à savoir ce que Dieu dit. La deuxième chose, Dieu demande de croire, à ce qu'on croit que c'est vrai, à ce qu'on croit en ces paroles. Dieu ne va pas vous mentir, Dieu ne va pas vous trahir, mais Dieu veut que vous lui fassiez confiance. Croyez ces paroles. Croyez qu'elles sont vraies. La troisième chose que Dieu nous demande quand il parle, c'est qu'on reçoive ces paroles. C'est bien d'y croire. Le diable croit. Mais qu'on les reçoive pour nous les approprier. Quand Dieu parle pour faire une promesse, elle est pour moi, elle est pour toi. Approprie-toi la promesse. Saisis-toi des promesses. Quand Dieu donne un commandement, crois, mais aussi reçois ce commandement comme étant pour toi. Quand Dieu dit de ne pas mentir, ne mens plus. Prends la ferme décision de ne plus mentir. Quand Dieu dit de ne pas être violent, de se détourner de l'alcool, de toutes ces choses, quand il décrit quelque chose de mauvais et qu'il nous dit de nous en garder, c'est pour notre bien. Recevons ces préceptes, recevons ces commandements. Ils ne sont pas pénibles, ils sont bons et salutaires pour toi. Reçois-les. Oui, entends, crois et reçois les paroles de Dieu, car c'est la vérité. Il pardonne, il guérit, il libère et il avertit aussi par amour. Puissions-nous recevoir les paroles de Dieu, les croire pour qu'il puisse nous faire passer de la mort à la vie. Amen. Merci Seigneur. Mon Dieu, tu es bon, tu veux nous bénir, tu veux nous sauver, tu veux nous guérir Seigneur, tu veux pardonner, c'est encore ton but et si tu n'es pas encore revenu chercher les tiens, si tu n'es pas encore revenu juger la terre, c'est parce que tu aimes l'homme, tu aimes la femme et tu veux que tous soient sauvés. Tu uses de patience, ta parole nous dit, et c'est la vérité. Oh Jésus, tu es là patient, ce soir tu interpelles quelqu'un. Puisse-t-il recevoir, entendre, croire et recevoir cette parole, que ce soit pour lui? Quelqu'un est-il coupable? Qu'il reçoive le pardon. Quelqu'un est-il malade? Qu'il reçoive la guérison. Quelqu'un est-il lié? Qu'il reçoive la liberté. Et la liberté vient de la vérité. Dieu dit que Dieu peut délivrer par la vérité et que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la Bible qui libère. Puissions-nous la recevoir, la saisir et la serrer dans notre cœur. Amen. Quelqu'un ce soir est peut-être là et a besoin d'expérimenter la guérison. Il a demandé pardon, il est là, Il croit que Dieu a dit pardon, mais il y a des gens qui disent non, tu n'es pas pardonné. Il y a des pensées même qui sont là qui disent tu n'es pas pardonné, c'est pas vrai. Dieu aimerait confirmer, te montrer qu'il t'a pardonné, te montrer que son pardon n'est pas fluctuant, mais qu'il dépend simplement de toi. Est-ce que tu te repens encore aujourd'hui de tes péchés? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu demandes pardon? Est-ce que tu t'en détournes? C'est ça que Dieu demande. Un pardon un jour, mais un pardon toute une vie, une marche, un état d'esprit. Si c'est le cas, eh bien, c'est valable, c'est bon pour toi. Si quelqu'un a besoin d'avoir l'assurance du salut, le pardon, si quelqu'un a besoin de guérison, si quelqu'un a besoin d'être libéré de cauchemars, de toutes sortes de choses, eh bien, qu'il s'approche, on va prier. Peut-être quelqu'un d'autre aussi a reçu un appel du Seigneur, un appel à le servir, ici ou ailleurs. Un appel à exercer un service particulier, peut-être pas au loin, peut-être pas sur une estrade, mais particulier, et il n'est pas sûr que c'est de Dieu. Quand Dieu parle, c'est la vérité, et il a besoin que tu sois à son service, que tu sois utile. Quelqu'un rejette, peut-être refuse d'obéir à Dieu, qu'il l'appelle pour le servir. Dieu se rappelle à toi, et il te dit, « Sers-moi. » Rends-toi utile, sois disposé à me servir. On t'a dit que c'était dur, c'est vrai. Mais à la fois, je te fais cette promesse, c'est que je vais t'aider et que tu ne feras pas ça par toi-même. C'est moi qui le ferai en toi. Quelqu'un a un appel et lutte, Dieu voudrait lui dire arrête de lutter, cède, car tu ne seras pas épanoui tant que tu ne céderas pas. Amen. Alors qu'il cède dans son cœur, j'ai vraiment ça sur mon cœur ce soir. Si quelqu'un lutte, qu'il arrête de lutter. Dieu veut le bénir, Dieu veut l'utiliser. Amen. Oui, si quelqu'un a un besoin particulier, un besoin de prière, quelle qu'elle soit, eh bien qu'il s'approche ou qu'il demande, qu'il lève la main. On va faire ça, qu'il lève la main là où il est. Et on priera, et je prierai. Après avoir vu les mains qui se lèvent, je ferai monter une prière. C'est pas devant moi qu'on fait monter cette main, mais devant Dieu. Lui, il voit ceux qui veulent être bénis, être touchés, être sauvés par Dieu. Amen. Amen.